Vous êtes entre les lignes, le rendez-vous de toutes les écritures. Jean-Marie Félix, bonjour. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Dans nos interlignes du mardi, nous abordons volontiers des thématiques historiques, capables néanmoins d'offrir une résonance à notre époque contemporaine. Aujourd'hui, nous n'allons pas déroger à la règle puisque nous allons faire un grand saut dans le passé, dans la seconde moitié du XIVe siècle précisément. Et nous allons le faire par le biais d'un roman paru récemment aux éditions Actes Sud Histoire, son titre Saltarello. Son auteur se nomme Mathieu Dénin. Bonjour Mathieu Dénin.
Bonjour.
Nous allons passer l'heure en votre compagnie, vous qui vous trouvez dans nos studios parisiens. Merci de nous avoir rejoints.
Merci à vous.
Saltarello constitue donc votre premier roman. Pourquoi avoir abordé la fiction par le biais de la fiction, du récit historique?
C'est venu, je dirais, un petit peu par hasard. À Paris, ma première adresse a été rue de Montmorency. J'habitais à quelques mètres, en fait, complètement par hasard, de la maison de Nicolas Flamel, qui est la plus ancienne maison de Paris. Et tous les matins, tous les soirs, en passant devant cette vieille bâtisse de la fin du XIVe, début du XVe siècle, je me demandais qui avait bien pu être ce personnage dont on entend souvent beaucoup parler dans les fictions, dans les œuvres de jeunesse ou autres, qui est entouré de toute une aura alchimique.
Et à partir de ce personnage historique, vous avez conçu ce formidable roman qui se passe au XIVe siècle, autour de ce personnage.
Exactement, c'est lui qui a été l'élément déclencheur. J'ai voulu un petit peu comprendre qui était le personnage historique derrière la légende, et par là même j'ai creusé sa période, son époque, son environnement.
Donc ce Flamel constitue le noyau de ce roman Saltarello. Dites-moi Mathieu Dénin, en parcourant une biographie que vous avez mise en ligne vous-même sur votre site personnel, j'ai appris que vous aviez une formation d'ingénieur et que vous aviez aussi de sérieuses, solides connaissances en informatique. Vous n'avez jamais pensé écrire un roman, d'anticipation scientifique, par exemple?
Non, ça m'intéresse beaucoup moins, en fait. C'est pas que j'ai le regard tourné vers le passé, mais je trouve un petit peu plus intéressant de faire de la fiction autrement que par l'intermédiaire de mon travail. C'est-à-dire que je mets une cloison un peu étanche entre mon univers professionnel et ma passion qui est l'écriture ou même l'histoire.
Et puis vous semblez avoir des centres d'intérêt très vastes puisque vous êtes un bon connaisseur du cinéaste Emir Kusturica, ça aussi je l'ai appris sur votre site internet, et vous avez d'ailleurs consacré un livre à son sujet.
Un essai, oui, qui est écrit en forme d'hommage à l'écrivain yougoslave Milorad Pavic, qui est une sorte de dictionnaire. Lui avait fait le dictionnaire Khazar, moi j'en ai fait un lexique subjectif, c'est-à-dire qu'il est écrit sous forme d'entrée lexicographique pour donner des anecdotes, des informations sur ce cinéaste des Balkans, de points de vue différents et complémentaires. Mmh.
Alors, quelle place tient l'écriture, Mathieu Dénin, parmi les nombreuses activités que vous semblez entreprendre au quotidien?
L'écriture m'apporte une dimension différente parce que j'ai, donc, comme vous le disiez, une formation et un métier scientifique dans lequel l'immédiateté, ou en tout cas la rapidité, est la règle. Et dans mon métier, on travaille par email, tout est rapide, il faut faire des programmes toujours plus performants, des choses toujours plus puissantes, plus performantes, plus rapides. Or, l'écriture et le travail que j'ai mené aussi sur Saltarello m'a amené à relativiser tout ça, m'a amené à, je dirais, prendre du recul et avoir une approche du temps très différente. Mmh. Non seulement parce que c'est un ouvrage historique, mais aussi pour, je dirais, le temps que j'ai passé, le temps que j'ai consacré aux recherches, à l'écriture, au retravail avec un historien sur cet ouvrage.
Alors nous avons une heure devant nous, Mathieu Denain, pour parler justement de votre approche du temps personnel. Et nous allons le faire avec Christian Tchoka. Bonjour Christian.
Bonjour
pour entre Mathieu les lignes, Denain. Pour Entre les lignes, vous vous êtes immergé dans le roman de Mathieu Denain, donc Saltarello. Et c'est vous qui nous proposez cette émission aujourd'hui. Je crois qu'il serait assez nécessaire en introduction que vous nous donniez quelques éléments de lecture concernant bien sûr l'intrigue qu'on trouve dans ce roman et les nombreux personnages.
Eh bien je vais parler, Jean-Marie, sous le contrôle de Mathieu Denain. Oui, tout commence dans Saltarello, tout commence le 5 février de l'an de grâce 1382, sous le règne du roi Charles VI, qui vient de succéder à son père Charles V en 1380, à l'âge de 11 ans. Ce sont ses oncles qui assurent la régence, dont le fameux Jean de France, duc de Berry, le célèbre mécène, en cette fin du XIVe siècle, et qui tient une place importante dans le roman. On a déjà parlé de Nicolas Flamel, voici donc Jean de Berry. Et ce 5 février, à Lisieux, le diocèse enterre son évêque Nicole Orem. Un jeune clerc du nom d'Alix Rougemont porte le cercueil en terre en se demandant, oui, en se demandant si son maître Orem, qui enseignait en Sorbonne à Paris quelques années auparavant, est bien l'occupant refroidi qu'on va ensevelir. C'est le début hésitant d'une enquête qui ne se conclura que 15 ans plus tard, en l'an de grâce 1397, et dont, évidemment, nous ne dirons rien. Entre ces deux dates sont entrés en scène les personnages historiques qui ont réellement animé cette deuxième moitié du XIVe siècle. D'abord le boucher Aubry Oscu, qui officie d'épotron minet dans son échoppe du quartier de Saint-Jacques de la Grande Boucherie. Et puis le reste du temps se répand en incessant bavardage, beuverie et autres grossièretés. Il a pour ami Guillaume Taillevent, cuisinier du duc Jean de Berry. Nous y voici, mais qui fut aussi dans l'histoire au service du roi Charles V. Oscu croise également le destin d'un personnage central. Vous l'avez dit, Mathieu Denain, c'est Nicolas Flamel, qui tient boutique à Paris et se passionne pour les traités alchimiques. Et puis, non loin de là, s'est installé un inventeur de génie, Jean Fusoris, qui conçoit des astrolabes pour les marchands qui en ont de plus en plus besoin, puisqu'il voyage de plus en plus. Dans le sillage du libraire et en lumineur, Flamel, un beau jour, apparaît Dame Christine de Pisan, la célèbre poétesse, et son père Thomas de Pisan, qui est aussi devenu l'astrologue en titre de la couronne. Et pour terminer, autour du pouvoir, eh bien des prélats, j'ai nommé Nicole Orem, sans doute le plus grand érudit de son époque, curieux de tout et aussi des pratiques occultes, alchimiques et satanistes. Le père abbé de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, c'est Vaste de Hainaut, qui deviendra évêque de Paris. Et puis n'oublions pas Satan, qui semble hanter certains esprits et certains lieux. Voilà.
Eh bien, c'est une véritable c'est saga. Ça. C'est exactement ça, dit Mathieu Denain. Il a l'air satisfait, Christian, de votre résumé succinct.
Oui, avec bien sûr Mathieu Denain, des emboîtements, une intrigue que nous allons progressivement, je ne dirais pas dévoiler, mais ce qui vous intéresse, vous l'avez dit d'ailleurs, vous l'avez soulevé à demi-teinte, malgré votre formation ou grâce à votre formation scientifique, c'est ce temps élargi du XIVe siècle, même s'il m'a semblé que tout le monde dansait la saltarelle, cette danse extrêmement rapide. On ne flâne pas vraiment dans votre roman, Mathieu Denain.
Non, c'est vrai que le temps s'élargit. Il y a trois périodes qui sont comme trois temps, comme une progression, sur le chemin de l'alchimie, qui est un chemin de découverte, de progression, d'apprentissage. Il y a trois périodes et au travers de ces trois périodes, je pensais qu'il était important de montrer le XIVe siècle dans toutes ses facettes, à travers les personnages. Alors dans tous les personnages que vous avez cités, quasiment tous sont historiques, sont réels, quelques-uns sont inventés. Pour les besoins de l'histoire et pour, je dirais, aussi l'apport en émotion ou en sourire que je souhaitais apporter dans l'histoire.
Apport aussi de vocable, car Aubry Oscu, non seulement est haut en couleur, pétomane, disons-le, vous lui faites jouer toutes sortes de rôles, il bavarde sans cesse et il me semble aussi que son bec de lièvre vous a permis vous-même d'affûter votre plume.
Oui, c'est un tic de langage qui peut paraître un petit peu, peut-être agaçant à la longue, je ne sais pas.
Sa déformation. Oui, il parle comme ça, il souffle beaucoup, oui.
Voilà. En effet. Et ça a été source de plusieurs quiproquos, de plusieurs blagues que j'ai voulu disséminer ça et là pour alléger parfois le propos, pour dédramatiser certaines situations. Parce que moi, ce que j'aime, en fait, c'est l'humour dans les situations graves et le rire quand tout porterait plutôt à pleurer. Et je pense que ça peut souvent aider dans les situations les plus tragiques.
Eh bien, nous allons justement, Mathieu Dénin, découvrir une des situations qui vous est chère. Elle a rapport à la musique, donc au titre du roman Saltarello. En août 1358, dans le scriptorium de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, le père Vaast de Hainaut se mêle à la discussion animée que tiennent plusieurs interlocuteurs. Nicole Aurem, professeur en Sorbonne, Raoul de Presles, théologien auprès du pape en Avignon et l'un des premiers à avoir traduit la Bible en français, et puis Philippe de Mézières, poète et diplomate qui a fait sa carrière au Levant, à Chypre, avant de devenir précepteur du dauphin futur Charles VI. Et puis il y a aussi deux témoins, le musicien Guillaume de Machaut et l'évêque de Lisieux Jean de Dormance.
Donc, Mathieu Dénin, vous avez déjà entendu votre prose romanesque lue à haute voix ?
Non.
Eh bien, ce sera une grande première parce que dans Entre les lignes, nous invitons régulièrement un comédien ou une comédienne à venir en direct incarner les textes issus de la plume de nos invités. Aujourd'hui, le comédien se nomme Cédric Simon. Bonjour Simon.
Bonjour.
Donc on va vous écouter lire ce premier texte que vient de nous présenter brillamment Christian Tchoka. On vous écoute.
Avec plaisir. Dans une partie de la pièce, éclairée par une concentration de bougies plus importante, se tenait un groupe de quatre hommes, en pleine conversation. Le premier était vêtu de la simple robe bleue des docteurs de la Sorbonne, le second portait une chasuble d'évêque, le troisième était en pourpoint et collant cramoisi, sans fioriture, mais sur mesure, tandis que le dernier contrastait dans une longue tunique bleue brodée d'or, ourlée de fines fourrures, et portait un turban sur la tête. Vaast de Hainaut tout sauta avant de les interrompre. Bien cher frère en Jésus-Christ, bonsoir.
Tiens, bonsoir frère Vaast, fit le docteur. Chers amis, je vous présente le père Vaast de Hainaut. C'est un picard comme vous, Philippe. Il est abbé de Saint-Germain-des-Prés. Enchanté, excusez-moi d'avoir interrompu votre conversation, père Aurem. Je suis accompagné d'un éminent écrivain qui nous arrive de la Cité des Papes en Avignon, Raoul de Presles. Frère Raoul, je vous présente Nicole Aurem.
Ah, Raoul, tout le plaisir est pour moi, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Ravi de vous connaître.
C'est un grand honneur, père Aurem, répondit Raoul de Presles en s'inclinant.
Cessons ces politesses, voulez-vous ? Tenez, je vous présente mes amis de passage sur Paris. Philippe de Mézières, qui nous arrive de l'île de Chypre, Guillaume de Machaut, mon ami poète et musicien, et Jean de Dormant, qui est de mon terroir et se trouve être l'évêque de Lisieux, ce qui est déjà nettement moins exotique que le lointain Orient.
Oh, fit Philippe de Mézières, vous savez, la Terre Sainte diffère finalement peu de nos contrées.
Ne faites pas le blasé, cher ami.
« Mais dites-moi, Raoul, on dit que vous arrivez d'Avignon. »«
En effet, père Aurem, j'ai passé un an auprès du Saint-Père. »«
Ah, oh, mais dans ce cas, vous pourrez satisfaire à ma curiosité. »«
On dit que notre pape Innocent le VI est barbu. »« À ma connaissance, c'est bien le premier pape qui ne se rase pas. »«
Oh oui, ça je peux vous le confirmer, il la porte, et bien longue. » répondit Raoul, provoquant la surprise de la petite assemblée, et principalement du bénédictin de Saint-Germain.
« Comment ? » intervint alors Vaast.
« En êtes-vous sûr ? C'est que ce n'est pas possible. Vous savez, cher frère Vaast, avant d'être élu, Innocent le VI était un homme simple, un homme du terroir, un Auvergnat, pour tout dire.
« O tempora o mores !» Pardonnez-moi, mais j'ai bien du mal à vous croire.
Se prendrait-il pour le patriarche de Constantinople ?
Ah, ah, frère Vaast, là vous frisez le blasphème, s'amusa Nicole Aurem.
Hainaut s'empourpra et devint confus. « Excusez-moi si je vous ai choqué, mon père, » bredouilla-t-il. « Mais de toute façon, je dois vous laisser, et je vous en prie, reprenez votre conversation. »«
Au plaisir, père Vaast. »
« Mais de quoi parlions-nous déjà ?» s'interrogea Orem.
La musique, frère Nicole, répondit Philippe de Mézières. La musique.
Ah oui. Mais tous les sujets convergent vers la musique, si l'on veut, compléta Orem. Toutes les sciences, toutes les disciplines.
Vous m'intriguez, père Orem, s'étonna Raoul de Presles. Pour moi, il s'agit d'un amusement des plus simples. Au mieux d'un art mineur, ne gaspillez-vous pas votre intelligence à vous répandre en de si vils sujets.
Ne soyez pas méprisant, frère Raoul. La musique fait partie de la mathématique.
Et puis, n'êtes-vous donc pas touché en entendant les vêpres chanter à la cathédrale Notre-Dame? N'êtes-vous pas charmé par le son du luth?
Certes, mais eh bien, savez-vous que le luth, tel que nous en voyons jouer aujourd'hui, est un instrument qui nous vient des Maures, d'Espagne, l'oud, mais que de subtiles améliorations ont rendu véritablement polyphonique. C'est grâce aux petites barres sur le manche du luth que l'on peut le rendre harmonique.
Harmonique ? Qu'entendez-vous par là, frère Orem ?
Ah, eh bien, c'est justement dans ce terme-là que réside tout l'intérêt de la musique. Vous connaissez, je suppose, cette danse toscane à trois temps, très à la mode à la cour du roi ou dans les bals dansants, le saltarello. Enflammé par un sujet qui le passionnait, Nicole Orem se mit à fredonner l'air simple et gai de cette danse, récemment arrivée à Paris grâce aux ménestrels qui sillonnent les routes du royaume. Philippe de Mézières et Raoul de Presles l'avaient tous déjà entendu et acquiescèrent.
« Bien. Et pourquoi cette danse plaît-elle autant, à votre avis ?»«
La mélodie est belle, certes, entraînante même, diriez-vous. » Mais la mélodie ne suffit pas. Si vous l'examinez, vous noterez que des contrepoints et des harmonies viennent se répondre au fur et à mesure que le morceau se développe, se superposent les uns aux autres tout en gardant la pureté du thème initial. Mais chaque fois, cela complexifie et enrichit son exécution.
Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Vous êtes Entre les lignes, le magazine littéraire quotidien d'Espace 2. Alors cette ponctuation musicale a tout son sens puisqu'il s'agit d'une saltarelle justement, une danse vive d'origine italienne qui a gagné les cours européennes, dont la cour de France vers le XIVe siècle. C'est en tout cas ce qu'on apprend à travers ce passage extrait de votre roman, Mathieu Desnains, roman intitulé Saltarello. C'est un passage qu'on vient d'entendre par la voix de Cédric Simon, le comédien. Quelle place tient la danse dans votre roman ?
La danse et la musique tient une sorte de fil rouge, un fil conducteur qui, comme une sorte, on va dire, de danse, danse macabre, entraîne tous les personnages, les uns avec les autres, vers le dénouement final. C'est, on va dire, quelque chose qui lie les personnages, qui lie les époques, qui lie les histoires à travers les différentes couches sociales des personnages qui ne sont pas censés se rencontrer. On parlait de boucher, d'évêque, de libraire. Or, on se rend compte que tous fredonnent cet air de la Saltarelle, en fait, dans ce Paris du XIVe siècle.
Christian Tchoka.
Même si Mathieu Desnin, certains la fredonnent, mais ne l'autoriseraient pas au grand jour, on pense aux prélats, aux hommes d'église qui voient dans cette saltarelle quelques rythmes endiablés. Oui, Satan montrait le bout de sa queue en dansant sur ces trois temps, comme on vient de l'entendre. Il y a aussi, me semble-t-il, une autre héroïne qui parcourt évidemment tout le roman. C'est la ville de Paris, Mathieu Desnin. Donc, vous en avez déjà parlé, vous croisiez le fantôme de Nicolas Flamel en vous promenant dans Paris, mais il y a plus. Hein. Vous faites vraiment battre le cœur de cette ville au XIVe siècle. C'est vrai qu'à cette époque, Paris est en train de se transformer en profondeur.
Oui, absolument. Il ne faut pas oublier qu'on sort d'une grande épidémie de peste et que la population a été décimée. Il y a aussi eu de nombreuses pertes avec les guerres contre les Anglais. Donc la ville de Paris est en train de se régénérer. On construit une nouvelle muraille sous Charles V, notamment beaucoup plus vaste que la précédente, pour englober toute une série de terres qui étaient des terres agricoles ou même des marécages, pour faire de Paris une grande ville. Donc il y a des travaux de grande ampleur. On construit à l'est la future Bastille. On construit des ponts, on construit des monuments. On construit également le château de Vincennes, un petit peu plus à l'est encore. C'est vraiment une période de grands travaux. On aménage les routes, on pave les routes. C'est le début des grandes artères, des voies de circulation. Donc c'est vraiment une ville en pleine évolution.
Artère engorgée, si je vous ai bien lu, Mathieu Desnin, car bah tiens, on pourrait, d'ailleurs vous prenez soin sur votre site internet de chapitrer les quartiers de Paris, de nous mener dans les venelles, dans les tavernes, dans aussi les coupes-gorges évidemment de la capitale. C'est des pages très plaisantes et il m'a semblé que les ponts, évidemment, comme on parlait de Paris sans parler des ponts, jouaient un rôle tout à fait crucial dans la circulation, dans l'engorgement, mais aussi aux yeux des personnages. Les ponts de Paris.
Absolument. Les ponts de Paris étaient très différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui, qui sont élancés, larges, etc. C'était pour la plupart des ponts qui étaient habités, qui avaient des maisons, des boutiques ou même des ateliers qui étaient installés de part et d'autre de la voie centrale et qui, pour certains, bénéficiaient de la force du courant avec des moulins qui étaient situés entre les arches, des ponts qui étaient en bois hein, pour la plupart. Il n'y avait pas encore de ponts en pierre. Et ce qui fait, bon, avec l'étroitesse et puis la quantité de marchandises et de personnes qui traversaient Paris d'une rive à l'autre, qui faisait que ces endroits étaient très encombrés. Et puis voilà, c'était des lieux de bousculade.
Alors pour le moins bousculade, c'est aussi des lieux très odoriférants, je vais le dire ainsi, c'est des lieux où on respire. D'ailleurs, vous avez pris soin, Mathieu Desnin, dans les pages du roman, de solliciter les cinq sens. Ça, c'est une véritable prouesse de romancier que de solliciter aussi bien le goût, la vue, l'ouïe. Et là, les rues de Paris sont vraiment reines pour vraiment nous ouvrir tous les sens, non ?
Oui, j'avais envie de faire sentir ce Paris du XIVe siècle, même si pour certains aspects il ressemble au Paris qu'on voit aujourd'hui dans les petites rues étroites du quartier du Châtelet. Et je pense que les amoureux de Paris retrouveront certains détails et se diront avec étonnement qu'il n'y a pas finalement beaucoup de changements dans certains endroits depuis 600 ans. Mais pour d'autres aspects, comme effectivement les odeurs, ça devait être une toute autre aventure. Il n'y avait pas l'hygiène qu'on connaît aujourd'hui.
Ah non, pour le moins, ça c'est sûr.
Mathieu Desnin, j'aimerais vous poser une question plutôt stylistique à ce moment de la conversation. J'étais frappé tout à l'heure en écoutant l'extrait de votre roman Saltarello, lu par Cédric Simon. J'étais frappé par l'importance des dialogues. On a l'impression que votre roman repose essentiellement sur une succession de séquences dialoguées, comme s'il était déjà tout prêt pour une adaptation télévisuelle ou cinématographique, pourquoi pas, vous y avez pensé?
Ou théâtral,
je dirais. Théâtral, pourquoi pas, bien sûr.
Pourquoi pas, en tout cas, c'est vrai que ce qui guide mon écriture, c'est une sorte de visualisation. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le cinéma et le théâtre, et je visualise, j'imagine, les scènes qui seraient en quelque sorte jouées devant moi. Mmh. Et je les retranscris telles que j'aimerais qu'elles soient... Elle soit jouée. Donc, effectivement, de là à un film ou une pièce de théâtre, il n'y a peut-être pas très loin.
Alors, votre roman, en effet, est largement dominé par les dialogues, mais il comporte aussi quelques belles descriptions, des descriptions très évocatrices, comme celle qu'on va entendre maintenant, toujours par la voix de Cédric Simon. Et j'aimerais que vous nous la situiez dans le roman, Christian.
Oui, en juin 1359, le boucher Aubry Oscu et son ami le cuisinier Guillaume Taillevent se querellent pour des broutilles, tout en pénétrant dans le royaume du premier, c'est-à-dire le quartier de la Grande Boucherie à Paris, bien sûr, l'un des lieux les plus animés et les plus odorant, vous venez de le dire, Mathieu Desnin, de la capitale.
Alors que les deux amis continuaient de discuter en s'approchant de l'entrée principale de la boucherie, les cris des animaux qu'on égorgeait, plus ou moins rudement, agressaient au moins autant que l'odeur de sang caillé et que celle des tripes. Durant leur promenade depuis la Seine, après être passé des odeurs de graisse animale à celles peu fraîches de la marée, les voilà qui étaient à nouveau assaillis par les effluves pestilentielles des tripiers, des écorcheurs, des écarisseurs et des boyaudiers. Même si leur situation de bourgeois leur permettait d'emprunter le haut du pavé, ils étaient tout de même obligés de fouler les tas d'ordures qui s'amoncelaient dans les rues, et ils ne pouvaient éviter les projections de boue lorsque des charrettes les dépassaient. Leurs chausses en étaient noires de crasse. L'imposant porche de la grande boucherie du Châtelet traduisait la richesse et la puissance de la corporation qui l'abritait. Au-dessus de la colonnade qui donnait accès à l'intérieur du bâtiment, un fronton à l'antique comportait une statue de l'apôtre Saint-Barthélemy, tenant le couteau de son martyr et la dépouille de sa propre peau, et assurant ainsi la protection des bouchers et des tanneurs. Oscu et Taillevent gravirent alors les quelques marches qui permettaient d'accéder à la halle de la grande boucherie. L'intérieur donnait sur de multiples étals organisés le long des deux allées qui se croisaient en leur milieu, et où tous les métiers de la viande s'affairaient et besognaient leurs matières premières dans un vacarme ahurissant, amplifié par la hauteur des deux travées. Des cris et des plaintes d'animaux qu'on égorgeait provenaient de partout et se mélangeaient aux harangues des bouchers qui vantaient la qualité de leurs marchandises. À main droite, on liait un bœuf par terre afin qu'une lourde massue lui écrase la tête. Après un douloureux gémissement, tous ses membres tremblèrent, s'agitèrent de terribles convulsions, puis ses yeux s'obscurcirent avec sa vie qui le quittait. À main gauche, on dépeçait à l'aide d'un long couteau un mouton enfiché sur un crochet. Des bras ensanglantés plongeaient dans les entrailles encore chaudes. D'énormes jambons étalaient leur obscène nudité le long des allées. Des saucisses de diverses couleurs, reliées les unes aux autres, pendaient en arc au-dessus des étals et des traverses. Des alignements sans fin de têtes, pieds, cœurs, poumons, muscles, poitrines, reins décomposaient l'anatomie des animaux mieux encore que ne le faisaient les planches des écorchés des livres de la Sorbonne. Au fond, des poules dont on venait de couper la tête battaient éperdument des ailes et luttaient les unes contre les autres de façon grotesque en un dernier réflexe vital. Le sang fumant courait de partout dans les rigoles qui le collectaient et le guidaient vers de larges cuves situées hors du bâtiment. Son odeur omniprésente prenait rapidement à la gorge, mais une fois que l'on y était habitué, c'était un mélange plutôt agréable d'épices qui se faisait sentir. Malgré la taille de l'édifice et la rigoureuse absence de flammes, l'espace intérieur était étonnamment lumineux. En fait, de nombreuses ouvertures avaient été réalisées dans le toit afin que la lumière du jour puisse pénétrer largement. Cette dernière permettait aux clients de juger de la qualité de la viande sans tricherie. Les couleurs, les cris et les odeurs évoquaient de prime abord plutôt la fête foraine que la place de marché. C'était un spectacle grossier, puant, charnel, presque effrayant.
Entre les lignes sur Espace 2, nous baignons aujourd'hui dans la seconde moitié du XIVe siècle, en pleine ville de Paris, et cela grâce à Mathieu Dénin, qui est notre invité. Mathieu Dénin, auteur d'un premier roman historique intitulé Saltarello, du nom de cette danse italienne qui s'est imposée au XIVe siècle à la cour de France. Et celle qu'on vient d'entendre était interprétée par l'ensemble Micro-Legousse. Christian Tchoka, c'est donc vous qui avez lu pour nous Saltarello, un livre, on s'en rend compte depuis 11 heures, depuis le début d'Entre les Lignes, un livre qui suscite beaucoup de questions, et notamment sur le plan historique.
Beaucoup de questions, beaucoup de plaisir aussi, il faut le souligner tout de suite. Oui, c'est vrai, un roman à mystère, Mathieu Dénin, on pourrait le penser en suivant l'enquête d'un des personnages inventés, mais qui pourrait très bien avoir existé, Axel Rougemont. Et Axel Rougemont, lui, c'est un peu, disons, à contre-emploi, l'enquêteur, malgré lui, du mystère. Alors le mystère, il n'est pas question de le déflorer, puisque nous laisserons nos auditeurs et nos lecteurs le faire en vous lisant. Mais enfin, tout de même, vous avez jeté Axel Rougemont qui, comme je le disais au début du roman, est stupéfait par une révélation qui progressivement se construit dans le roman. De quoi s'agit-il ?
Oui, si vous voulez, cet étudiant se trouve, malgré lui, à enquêter dans le milieu, on va dire, du Paris des messes noires, puisque par un concours de circonstances et des petites allusions qu'il entend ici et là, des éléments de réflexion personnelle aussi qui le conduisent à penser qu'il existe une sorte de société, on va dire sataniste, dans Paris, et qui en aurait voulu à son ancien maître, Nicole Aurem. Donc il s'agissait de montrer par l'intermédiaire de cette enquête les penchants qu'avait la population, que ce soit les plus simples comme les plus aisés, envers le culte du diable.
C'est vrai, Mathieu Dénin, que dans ce XIVe siècle, l'Inquisition est déjà bien rodée, si j'ose dire, depuis le siècle précédent. Donc les Dominicains ont commencé par ces grands procès en Inquisition, et d'ailleurs vous y faites référence dans le roman, un très beau chapitre, un procès en sorcellerie. Enfin, c'est pas tout à fait une sorcière que cette Jeanne, c'est plutôt une turlupine. Donc ça turlupine beaucoup dans Paris, et ça s'abîme dans les bas-fonds où le diable joue un rôle aussi bien, comme vous venez de le dire, auprès des puissants qu'auprès des humbles.
Tout à fait. C'était la façon, en fait, qu'avaient les gens de se réfugier dans ce qu'ils ne comprenaient pas, à défaut d'avoir, un pouvoir fort et clair, étant donné que le point commun un petit peu entre les trois périodes du roman, c'est qu'il n'y a plus vraiment de pouvoir en France. Et il n'y a plus non plus de... Il y a aussi un problème religieux avec le grand schisme qui fait qu'il y a un pape à Avignon et un pape à Rome qui se querellent. Les gens avaient perdu leur repère dans le temporel et dans le spirituel.
Moi, je ne voudrais pas me réfugier dans ce que je ne comprends pas, Mathieu Dénin. Qu'est-ce que c'est qu'un turlupin ou une turlupine, comme vient de l'évoquer Christian ?
Les turlupins, c'était des adeptes d'une forme de pensée, je dirais, très pure, dans la mesure où ils prônaient le refus de la possession, en disant que le Christ ne possédait rien. Pourquoi devrions-nous posséder quelque chose ? Et en refusant cette notion de propriété, ils allaient jusqu'au bout de leur réflexion en se promenant nus et en vantant la nudité et la vie dans le plus simple appareil. Alors évidemment, ça prête à des scènes, je dirais, un peu cocasses. Même si c'est un fait qui a existé au XIIIe et XIVe siècle, c'était des dérives, je dirais, un petit peu sectaires, un petit peu extrémistes, de certains mouvements de pureté, de recherche de pureté.
Un peu les hippies avant la lettre, on pourrait le dire.
Un peu ça, parce
oui,
qu'en
c'est
fait,
vrai.
Ces turlupins vivaient en communauté et avaient des mœurs, on peut dire, un peu dissolues. C'était pas forcément.
Alors, ils fumaient peut-être pas des pétards, comme on disait à l'époque.
Ils fumaient peut-être autre chose, allez savoir.
Voilà. Tout à fait. Mais enfin, vous visualisez fort bien ces scènes, Mathieu Dénin. C'est très plaisant de suivre cette turlupine qui causera bien des troubles dans le Paris de 1382, si ma mémoire est bonne. Mais là, nous allons remonter un tout petit peu dans le temps, avec une autre scène, puisque vous parliez de mystère, là, il y a un autre mystère qui parcourt tout le roman, et un personnage qui porte ce mystère, c'est Nicolas Flamel, votre héros en somme. Et toujours en ce mois de juin 1359, donc après la grande boucherie, eh bien le duc de Berry, Jean de France, convoque dans son palais Nicole Orem, le prélat professeur en Sorbonne, le libraire Nicolas Flamel, justement, et l'astrologue italien Thomas de Pisan, pour l'éclairer en profondeur sur une science occulte et malfamée, l'alchimie. Et c'est Nicolas Flamel qui ouvre les feux de cette discussion.
Et c'est Cédric Simon qui nous fait cette lecture.
Flamel reprit. L'art alchimique, monseigneur, est un art dont l'intérêt essentiel réside dans son processus même d'apprentissage, dans le chemin parcouru, dans l'initiation en elle-même, et non pas dans le résultat ou le but à atteindre. C'est en cela qu'il requiert énormément de temps, et non pas forcément de savoir en soi. C'est en cela, si vous me permettez ce raccourci rapide, qu'un alchimiste sera moins intéressé par l'or qu'il serait capable de fabriquer que par le processus d'apprentissage qui lui aura donné ce savoir-faire. Voyez-vous, cet or, on peut aussi le nommer grand œuvre ou pierre philosophale, c'est la même chose. Orem, qui avait écouté patiemment Flamel, l'interrompit avec moquerie. « Ah, ce monsieur Flamel croit sans doute que la création d'or est possible avec un alambic, quelques potions et d'obscures formules incantatoires. »« Très estimé duc, vous êtes un homme sensé, cultivé. Sachez que tous ces processus chimiques, ou alchimiques, comme vous voulez, sont des balivernes, des inepties. »« Permettez, père Orem, interrompit Flamel, je vous respecte beaucoup. » Je ne vous permets pas de me juger ainsi. Je n'ai jamais dit que je croyais à ces processus de transformation. Fort bien, fit le duc avec des gestes d'apaisement envers ses invités. Je ne souhaite pas vous voir vous étriper, mais comprenez ma curiosité. Tous ces livres qui se vantent de mettre leurs lecteurs sur la voie de l'or, précisément, éminence. Sur la voie. Et c'est bien là leur intérêt. J'ai du mal à comprendre, Flamel. Quel est l'intérêt de chercher à s'approcher de l'or tout en sachant que l'on n'y parviendra pas ? Thomas de Pisan prit alors la parole. Il s'exprima dans un très bon français matiné d'un délicieux accent méridional tout en roulant les R de façon gourmande. « Et, monseigneur, permettez-moi de vous rappeler quel principe de base. La chimie n'est pas tant comme les prétendent. Votre ami libraire, un parcours, c'est surtout un art de la transformation. Voyez-vous, la philosophie, car pour moi c'en est une, la philosophie inhérente est la transformation de l'ignoble vers le noble, de l'obscurité vers la lumière, de la matière vers l'esprit pur. Il s'agit de transformer encore et d'étape en étape, de transformation en transformation, d'améliorer sans cesse les produits initials, de les purifier jusqu'à les rendre les plus purs, les plus parfaits possibles. Et quand l'alchimiste transforme, il crée. Et par là même, il rejoint les créateurs. Nicolas Flamel bouillonnait intérieurement. Il avait bien compris que le religieux était plutôt de son côté, et pourtant, il sentait qu'un vague mépris de la part d'Orem et de Pisan flottait envers sa personne, comme s'il manquait d'une certaine respectabilité pour discuter d'égal à égal avec ce docteur de la Sorbonne et cet astrologue bolognais. Mais pour qui se prennent-ils, pensait-il. Pour qui se prennent-ils pour me traiter de la sorte ? Le duc de Berry, lui, semblait s'impatienter de ses réponses alambiquées. Fort bien, Pisan. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? A-t-on ou pas fabriqué de l'or ? Eh bien, donnez-moi un laboratoire. Et à peine Pisan avait-il commencé, qu'Orem l'interrompait. La réponse est non, duc. On n'en a jamais fabriqué. Et cela tout simplement parce que ce n'est pas possible.
Vous ne l'aurez bien dire, belle, vous ne l'aurez bien dire. Vous ne l'aurez bien dire, belle, vous ne
Une saltarelle de Adam de la Halle, interprétée par l'ensemble Anonymous, pour faire suite à un nouvel et dernier extrait de Saltarello, un roman historique signé Mathieu Dénin, qui paraît actuellement chez Actes Sud Histoire. À propos d'alchimie, Mathieu Dénin, est-ce que l'on connaît la position qu'avait l'Église par rapport à cette pratique, je ne sais pas, qui était assimilée à du satanisme à l'époque ?
En fait, c'était pas tellement l'alchimie en soi, puisque c'était considéré même presque comme une discipline scientifique. C'était plutôt la littérature qui allait autour de cette alchimie, qui était suspecte par l'Église. Les ouvrages étaient considérés comme suspicieux, voire même hérétiques, dans la mesure où il prônait, une notion de création, et donc par là même de rivalité avec Dieu, qui était scandaleuse. Par contre, les pratiques en elles-mêmes étaient communes, étaient normales, et il n'y avait pas tellement cette différence qu'on fait aujourd'hui dans les expériences entre chimie et alchimie.
Il est vrai que dans l'esprit un peu brouillé du jeune clerc qui va vieillir comme tous les personnages de 1358, Mathieu Dénin, à 1397, quand se termine, enfin apparemment, votre roman, il est vrai que dans l'imagination d'Axel Rougemont, lui, l'alchimie est prétexte à toutes sortes de débauches satanistes. Et je me suis demandé si vous vous étiez amusé, à travers justement ces pratiques occultes, à vouloir renverser l'ordre du monde.
Renverser l'ordre du monde, c'est un bien grand mot. Mais je pense que... Effectivement, ce genre de pratique occulte n'est pas une invention du Moyen-Âge, et que le culte sataniste, je crois, pour m'être documenté sur les pratiques, les rites, les messes noires, c'est quelque chose qui a existé et qui continue d'exister, et pas seulement dans les pays occidentaux, mais dans toutes les sociétés. Et c'est le versant un peu obscur de l'âme humaine vers laquelle tout le monde a plus ou moins un grand penchant. Donc c'est quelque chose qui, je pense, est légitime, en fait, quelque part.
Mais cette légitimité, elle est aussi accolé au personnage, votre personnage, Nicolas Flamel. Je vais reprendre l'accent de Thomas de Pizan, que vous ne salissez pas, que vous cherchez à purifier tout au long du roman. C'est avec lui, effectivement, que nous allons vous quitter, Mathieu Dénin, en invitant tout le monde à se plonger dans ces intrigues, dans cette enquête et dans ces enluminures du Paris de la fin du XIVe siècle.
Et on rappelle, Christian, merci d'abord de vous être plongé dans ce livre. Merci aussi à Cédric Simon qui en a assuré la lecture de quelques extraits. On rappelle que ce roman historique, premier roman de Mathieu Dénin, est intitulé Saltarello et qu'il paraît aux éditions Actes Sud Histoire. Et on va se quitter avec une dernière saltarelle, justement. Auditeur d'Espace 2 d'Entre les Lignes, vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur le livre de Mathieu Dénin, bien je vous renvoie à la page internet de notre émission. Pour y parvenir, vous tapez espace2.ch et puis une page qui vous permettra aussi de réécouter cette émission ou de la télécharger. Voilà, je vous donne rendez-vous demain à 11h. Avec Annick Schoen, nous recevrons Jean-Claude Carrière, qui lui aussi maîtrise bien le récit historique. Jean-Claude Carrière vient de faire paraître un livre d'entretien avec l'auteur italien Umberto Eco. Ces échanges ont été réunis sous le titre légèrement provocateur « N'espérez pas vous débarrasser des livres ». On y trouve un regard panoramique sur l'écriture depuis les premiers papyrus jusqu'aux livres électroniques. Merci à Françoise Yenny pour la mise en forme de ces interlignes. Merci aussi à Jeannine Corbeau pour sa précieuse assistance. Et puis, comme nous en avons pris l'habitude depuis la mi-novembre et que, Dieu merci, nous en avons le temps, nous allons nous quitter avec un précepte de bienséance tiré du manuel de savoir-vivre que Paul Guth a rédigé en 1959. C'est le comédien Jean-Quentin Châtelain qui vous livre ce premier conseil de saison.
Chauffage. Les hommes sont, en général, moins frileux que les femmes, qui d'ailleurs sont vêtues plus légèrement. En rentrant chez eux le soir, ils manifesteront leur tendresse en ne fermant pas les radiateurs.
Bonjour Laurence Froidevaux.
Bonjour Jean-Marie Félix.
Je vois que vous n'êtes pas habillée légèrement, une grande écharpe entoure votre cou. Vous
certes,
êtes bien chauffée.
Vous savez que les femmes sont plus frileuses que les hommes.
C'est bien connu, c'est Paul Guth qui le disait en 59. Donc, Dardard, après les informations de midi, nous parlerons théâtre.
Et on reçoit notamment Benjamin Knobel, auteur, comédien, metteur en scène. Il présente dès ce soir Boulette. C'est un texte qu'il a écrit sur les relations abusives entre une mère et son fils. C'est hilarant. Ça s'appelle donc Boulette et c'est au Poulof dès ce soir. On va en parler avec lui dans un instant.
C'est hilarant. Vous avez vu le spectacle ?
Non. Je n'ai pas encore vu le spectacle. La première, c'est ce soir, mais j'ai lu le texte qui est extrêmement subtil et très drôle sur une histoire pourtant assez dramatique.
On se réjouit de découvrir ça. Pour l'heure, il est midi sur Espace 2.
RSR, Franck Leutenegger.
La lutte contre le chômage et le démantèlement des assurances sociales sont les deux priorités de l'Union syndicale suisse pour 2010. L'USS présentait ce matin son agenda politique à Berne. Côté mesures concrètes, elle confirme le lancement d'une initiative sur les salaires minimums. Elle prépare une taxe de 50% sur les bonus des managers. Pour Paul Rechsteiner, président de l'Union syndicale suisse, il faut tout mettre en œuvre pour consolider la couverture offerte par l'État.
Nous combattrons le démantèlement du service public de la Poste. Nous nous engageons pour une Suisse qui sert aux intérêts des travailleurs ordinaires et nous demandons un impôt pour les bonus avec un impôt de 50% sur les bonus. On pourrait financer une prestation de 1000 francs pour une famille, ce qui va renforcer la politique contre la crise avec le pouvoir d'achat.
Vous partez pratiquement dans toutes les directions pour la défense de l'État social. Est-ce que vous risquez pas de vous essouffler ?
Nous sommes conscients qu'il y a une grande problématique dans cette attaque orchestrée à l'État social, mais les expériences nous montrent qu'avec les référendums pour la défense de l'État social, on défend quelque chose qui garantit la qualité de la vie en Suisse et qu'on a une bonne chance pour nous imposer à l'urne.
Paul Rechsteiner, interrogé par Christian Favre. L'Union suisse des paysans veut maintenir une agriculture diversifiée, constituée d'exploitations familiales qui assument des tâches multifonctionnelles. L'organisation a réaffirmé ce credo ce matin lors de sa conférence de presse annuelle à Fehrenbalm dans le canton de Berne. Et pour maintenir ce modèle où le métier d'agriculteur est exercé à titre principal, il faut absolument interrompre sur le champ les négociations en vue d'un accord de libre-échange agricole avec l'Union européenne et poursuivre la voie bilatérale, a répété Hans-Jürg Walter, le président de l'USP. Les recherches des trois personnes ensevelies dimanche par des avalanches dans l'Oberland bernois ont pu commencer ce matin. La météo a enfin permis à un hélicoptère de survoler la région et de déposer des secouristes sur le lieu de l'accident. Mais les chances de survie des trois disparus sont minimes, Christine Verlet.
Les recherches ont repris ce matin dans l'Oberland bernois pour tenter de retrouver les trois randonneurs ensevelis dans les avalanches de dimanche. Les secouristes sont actuellement sur place car, selon le Secours alpin suisse, les conditions météo le permettent aujourd'hui, contrairement à hier. Un hélicoptère a survolé plusieurs fois la zone sinistrée ce matin afin d'évaluer le danger. Les pentes ont été sécurisées, des charges explosives ont ainsi été lancées pour déclencher artificiellement des avalanches dans les environs. Entre 60 et 70 secouristes ont ensuite pu être déposés sur le lieu de de l'accident avec des chiens. Les trois personnes disparues sont une Suissesse, un Suisse et un Allemand. Toutefois, leurs chances de survie sont minimes après deux nuits et un jour passé avec des températures au-dessous de 0 degré. Les avalanches de dimanche se sont déclenchées dans la région du Dimticktal, faisant 4 victimes et 5 blessés. Ces avalanches sont les plus meurtrières en Suisse depuis celle d'Evolen, qui avait tué 12 personnes en 1999.
Airbus pourrait renoncer à la construction de son avion de transport militaire A400M. L'annonce faite ce matin par le patron du groupe européen représente une marche arrière sans précédent. Cet appareil devait représenter l'entrée d'Airbus sur le marché militaire, mais le financement du projet fait toujours l'objet de négociations assez mal engagées. Estelle Bragonnier.
L'A400M est en fait déjà bien plus qu'un projet. Le prototype a volé début décembre plus de 3 heures en transportant plus de 15 tonnes d'instruments militaires et s'est finalement posé sur le site d'Airbus à Séville. Un premier vol d'essai concluant qui n'a pourtant toujours pas convaincu la totalité des 7 pays partenaires de ce programme de ratifier un accord avec EADS. Pourtant, 180 appareils ont été commandés pour un total de 20 milliards d'euros. Mais le point d'achoppement principal réside dans le surcoût du financement de cet appareil, dont la conception a déjà pris un an et demi de retard et la commande massive passée par l'Allemagne qui, depuis les dernières élections, freine des quatre fers pour honorer ses engagements. Autant d'arguments qui auraient de quoi vexer le patron allemand, justement d'Airbus, à tel point qu'il vient d'annoncer qu'il ne croyait plus à une poursuite du programme et aurait commencé à préparer sa fin. Un effet d'annonce, en fait, selon les spécialistes aéronautiques qui ne menacerait pas encore vraiment la 400M.
L'ambassade des États-Unis au Yémen, fermée depuis dimanche pour des raisons de sécurité, a rouvert ses portes ce matin après les opérations militaires yéménites contre Al-Qaïda. Dimanche, Washington et Londres avaient fermé leurs ambassades à Sanaa en invoquant des menaces de la branche locale des terroristes au Yémen. La France en avait fait de même. Le renseignement britannique avait des informations sur Omar Farouk Abdulmutallab, le Nigérian qui a tenté de faire exploser le vol Amsterdam-Détroit le 25 décembre dernier. Mais ces informations n'ont pas été jugées alarmantes par les États-Unis. Une source gouvernementale ayant requis l'anonymat souligne que Washington n'a pas considéré cet individu comme une réelle menace terroriste. L'abeille à longues antennes a été élue animal de la...
Espace 2.
La littérature sur Espace 2, c'est dans Entre les lignes, du lundi au jeudi à 11h et 19h.